Vous écoutez le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
Mesdames et messieurs, on y est, ça y est, finale de conférence Est pour les Boston Celtics. C'est Pierre qui vous parle et ce soir, je suis accompagné pour la review sur cette série en 7 matchs contre les Philadelphia 76ers et aussi la preview contre le surprenant Miami Heat. Pour cela, je suis accompagné de mes deux acolytes, à savoir Hugo et Elias. Messieurs, comment allez-vous 24 heures après.
Après un match à 51 points de Jason Tatum, ça ne peut qu'aller bien, j'ai envie de dire.
Tout va bien, exactement. Tatum s'est réveillé et il nous a réveillé en même temps.
Messieurs, je vous propose qu'on ne tergiverse pas trop vu que le programme est chargé. On va commencer par parler donc forcément de cette série face à Philly. Cette série, est-ce que c'est la victoire de Boston, celle de l'arbitrage ou la défaite des Sixers?
Alors déjà pour l'arbitrage, je pense que c'est une bonne blague, mais on peut peut-être arrêter d'en parler, ça a été assez fatigant sur Twitter, mais voilà, je pense que c'est un peu un mélange de tout. Je pense que on peut parler à la fois de L de Philly, mais aussi de un peu de win de leur part, parce que enfin ils ont, moi en tout cas, ils ont joué mieux que ce à quoi je m'attendais. Je pensais pas qu'ils réussiraient à transmettre leur niveau de jeu de fin de saison régulière sur une série de playoffs contre une défense comme celle des Celtics, sachant que ce que j'ai vu d'eux contre les Nets au premier tour n'était pas si impressionnant que ça. Donc j'ai trouvé qu'ils ont un peu surjoué, surtout Harden sur deux ou trois matchs où bah en fait ils gagnent tout seuls, quoi. Le premier match ils gagnent tout seuls et le match 5 qui va en overtime aussi, hein, c'est la même histoire. Il est presque seul, Embiid l'accompagne bien, mais c'est toujours Harden le meilleur joueur sur le match. Et donc assez surpris du niveau de Philly. Il y a quelques erreurs, quelques problèmes de la part des Celtics, mais j'ai pas envie de dire que c'était non plus une catastrophe totale vu le niveau proposé en face. On n'a pas perdu contre une, les matchs qu'on a perdus, c'était pas contre des équipes très nulles et voilà quoi. C'était quand même une série intéressante avec du bon niveau des deux côtés.
Hugo,
oui, honnêtement sur l'arbitrage, j'ai pas grand chose à dire personnellement. Bon, certes peut-être sur le match 6, on a eu quelques coups de sifflet. Favorable, mais je pense que globalement sur la série c'était plutôt cohérent. Après voilà, peut-être que je suis biaisé, je ne sais pas, mais pour ma part j'ai trouvé ça assez cohérent. Je pense que c'est surtout une victoire de Boston, dans le sens où en fait pour ma part je pense que quand t'es mené 3-2 dans une série, que tu gagnes le match 6 à l'extérieur, ça peut être qu'une victoire et pas une défaite de l'adversaire, parce qu'il faut aller au combat et gagner à l'extérieur, c'est toujours difficile. Donc pour ma part, c'est une victoire de Boston, même si évidemment on s'est fait peur. Et bon, sur le match 7, il y a peut-être aussi un peu de défaite de Philly quand on voit le match de leurs deux superstars, mais au global, je pense que c'est quand même une victoire des Celtics. Pas la plus belle victoire, on en reparlera, mais c'est une victoire quand même.
Qu'est-ce qu'on retient un petit peu de ces 7 matchs, de ce qui a été proposé défensivement et offensivement? Il s'est passé pas mal de choses, avec entre autres le retour sur la fin du retour de la Two Bigs lineup. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est durable tout ça?
Ouais, alors. Surtout pour cette double line-up, ça a été très intéressant. C'est un super ajustement de Joe Mazzulla. Ça paraissait évident, mais c'est pas facile, hein, faire ce genre de décision dans une série de playoffs. Il a pas d'expérience, il a pas de coaching staff très établi, quoi. Il a perdu deux des trois plus gros assistants que Ime avait, donc c'est vraiment pas un coaching staff très rempli. Lui, il a 33 ans, c'est sa première run de playoffs en tant que head coach, donc c'est quand même pas facile, faut le rappeler. On va pas l'excuser, mais il y a eu quelques erreurs, quelques problèmes, notamment dans l'utilisation donc de cette double big qu'on voyait presque jamais. et qui a été excellente sur le Game 6, absolument remarquable. Je crois que j'ai pas les stats en tête, mais sur les 19 minutes qu'ils jouent ensemble, oui, Rob et Horford sur le match 6, c'était exceptionnel. Ils ont su trouver la réponse au pick and roll Harden Embiid qui leur posait tant de problèmes, qui créait soit beaucoup de tirs ouverts, soit beaucoup d'opportunités pour Harden de vraiment créer une attaque efficace pour eux. Et au match 6 et 7, on a vu que l'adaptation de Mazzulla d'utiliser Rob et Rob en low man sur PJ Tucker, ça a vraiment complètement changé la défense sur plusieurs manières. Ça va être un peu compliqué à expliquer, surtout à l'oral. Je peux vous inviter à regarder la dernière vidéo de Ben Taylor qui dissèque tout ça vraiment en très grand détail. Donc je pense que pour moi, la série s'est gagnée là-dessus, s'est gagnée sur cette décision de Joe Mazzulla de faire jouer Rob Williams dans le 5 et de le faire défendre en low man sur PJ Tucker, comme il a déjà fait l'année dernière dans tous les playoffs et qui marchait si bien. Et ça a complètement changé le visage de la défense qui était vraiment assez patineuse et qui avait du mal à se trouver une identité quand c'était Derrick White dans la starting lineup.
Hugo aussi emballé par ce choix plutôt à vocation défensive, on a envie de dire.
À vocation défensive, je ne sais pas, parce que au final, on se rend compte que sur la série, oui, d'accord, ça a été très, j'ai envie de dire, vital, comme l'a très bien souligné Elias en parlant de la vidéo de Ben Taylor, que bah, je vous conseille également. Mais oui, ça a été vital en défense, mais aussi en attaque. J'ai trouvé que ça a été beaucoup mieux dans le sens où, en fait, quand on avait notre line-up classique, donc avec Derrick White en lieu et place de Rob Williams dans le 5, justement, en fait, Fini n'avait pas besoin de respecter le spacing vertical, parce que, qu'on soit honnête, Horford, il nous apporte du spacing derrière la ligne à 3 points, mais spacing vertical, pas trop. Et au final, on se rendait compte que, notamment, bah, Tatum, sur chaque drive, il était constamment doublé, parce qu'en fait, Embiid avait, je vais pas dire qu'il était, je vais pas dire qu'il était à 50%, quelque chose comme ça, mais c'est sûr qu'il n'était pas aussi mobile que d'habitude. Et finalement, à part la protection de cercle, j'ai envie de dire qu'il n'a pas apporté grand-chose en défense. Alors, il était élite, mais vraiment élite de chez élite dans la protection de cercle. Mais par contre, quand il fallait bouger, c'était un peu plus compliqué. Et justement, avec Rob, ce qui était bien, c'est que ils n'ont pas pu fixer Embiid ils n'ont pas pu flotter avec Embiid vraiment en protecteur de cercle. Ils ont dû s'adapter et pas se mettre à deux sur une ligne de drive de Tatum, parce qu'il fallait justement respecter derrière le spacing vertical et les capacités de Rob en lob catching. Et au final, ça nous a aussi ouvert beaucoup de solutions en attaque. Bon, sur le match 6, paradoxalement, pas trop, parce que, bon, encore une fois, Tatum, on en reparlera, fait un match pitoyable sur le match 6, hormis le dernier carton. Mais sur le match 7, on a vu justement que les lignes de drive étaient bien plus ouvertes qu'à l'accoutumée. Et bon, même si, par exemple, Brogdon, White se font pas un super match, parce que je trouve qu'ils font des choix vraiment horribles dans leur drive. En tout cas, pour Tatum, il y a eu des lignes de drive bien ouvertes. Et ben, ça nous a aussi servi en attaque. Donc oui, je suis plutôt comblé par ce choix de Mazzulla. Je pense qu'on en parlait justement avec Robin, par exemple, dans notre conversation en interne, hein, pour rien vous cacher. Mais on trouvait globalement qu'on jouait trop petit face aux Sixers. Et l'ajustement était, oui, était le bienvenu, clairement.
C'est marrant parce que tu as plutôt mis le point sur le côté offensif, alors que Elias avait mis le point sur le côté défensif. Offensivement, on va essayer de ne pas se laisser griser par le dernier match. Mais comment vous avez trouvé Boston? Moi, j'ai eu un peu de mal sur pas mal de choses, mais je voulais avoir votre avis, les gars. Alors, certes, Tatum a été quasiment à l'endroit pendant 80% des matchs, mais je trouve qu'aussi dans la qualité des tirs qu'on avait, c'est quand même moins bien que ce qu'on a eu par le passé. Alors, crédit à Philadelphie, un peu forcément, mais est-ce que ça ne nous pose pas aussi des questions sur notre niveau à nous?
Je pense que c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on a vu toute la saison précédente et contre les Hawks. Les matchs qu'on perd, on les perd quand on tire mal à 3 points. Enfin, la plupart, hein, c'est une majorité, on va dire. On les perd quand on tire mal à 3 points. Et en général, quand on tire mal à 3 points, c'est que les tirs qu'on obtient sont pas des très bons tirs. Il y a un peu de variance là-dedans, donc on peut pas assurer à 100% que ce soit la vérité. Mais le match 7, alors d'accord, Tatum met des tirs compliqués, mais à part, il me semble, un ou deux sidesteps sur la tête d'Embiid, la plupart, c'est juste des tirs presque ouverts qui sont défendus par un drop ou par une zone 1-2-1. 1-2-2, pardon. Et sur le match 7, Jaylen Brown rentre des tirs ouverts. Al-Horford rentre un tir ouvert à la fin du premier quart-temps. Je me souviens, je crois que Marcus Smart rentre un tir ouvert. Derrick White aussi. Donc en fait, les 3 points qu'on obtient, il faut qu'ils soient des bons 3 points pour qu'on espère que le pourcentage soit haut, comme on l'a vu pendant toute la saison. Et ces 3 points ouverts, on les obtient en attaquant le panier, comme l'a très bien dit Hugo. Et effectivement, sur certains matchs, dont les défaites, qui ont été le premier match surtout. Et le cinquième match, il me semble, celui qu'on perd en overtime. Non, le sixième match, pardon. J'ai trouvé que les décisions offensives n'étaient pas très bonnes, dans le sens où il y avait beaucoup de stagnance, il n'y avait pas beaucoup de passes. C'était une passe, un tir, une passe, un tir. On n'essayait pas d'attaquer le panier. Et c'est là où, en fait, on observe souvent que les tirs à 3 points sont pris, c'est des moins bons tirs, et ils rentrent tout simplement beaucoup moins. Et pour moi, on est dans une équipe où là, on vit et on meurt par le 3 points, quoi.
On vit, on meurt par les 3 points, Hugo. Est-ce que aussi il n'y a pas quelquefois, moi c'était plus le côté sur la circulation de balles qui m'a parfois gêné. Est-ce que toi, t'as ressenti ça ou c'est juste un ajustement sur cette série-là?
Bon, je pense que c'est un peu un ajustement sur cette série-là, mais je pense que ça va quand même être aussi le cas sur Miami, parce qu'on a vu justement les Sixers tenter parfois avec Doc Rivers de passer en zone, ce que Miami fera, je pense, beaucoup. Donc en
On y
fait,
reviendra.
pardon, je
Je dis
pense.
on y reviendra, on va pas
Ah
épiloguer.
oui, on y reviendra évidemment, parce que bon, ça va être un des grands points de la série à venir. Mais oui, en fait, le fait de passer en zone, nous, ça nous rend la tâche plus difficile, dans le sens où, en fait, on l'a vu cette saison, et comme le dit justement Ignace, on a vécu, on est mort parfois par les tirs à 3 points, mais surtout, on est une équipe qui se repose énormément sur le drive and kick. Je pense beaucoup plus que la moyenne NBA. Bon, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense que ça m'étonnerait pas qu'on soit dans une des équipes, en tout cas, qui a les plus fortes tendances là-dessus. Et justement, en fait, face à une zone qui nous forçait justement à prendre beaucoup de tirs avec Embiid qui protégeait le cercle, en fait, il n'y avait plus vraiment cette menace du drive. Parce qu'on a vu, je parlais de Tatum, mais il y a énormément de joueurs qui ont eu peur d'Embiid. Par exemple, Brogdon, sur la série, j'ai trouvé vraiment très très moyen. Et des fois, c'était flagrant, il avait peur de se faire contrer. Et justement, quand il y a une dissuasion comme ça, quand on a peur d'aller au cercle, ça facilite la tâche de la défense, parce qu'on sait qu'au final, ils peuvent flotter. On tentera pas franchement le layup ou le tear drop, parce qu'on a peur de la présence intérieure. Et justement, ça facilite la défense sur les kicks. Et justement, je trouve que Philly a fait un très très bon travail là-dessus. Donc forcément, nos tirs à 3 points étaient de bien piètre qualité par rapport à ce qu'on a eu face à Atlanta. Et justement, quand on regarde l'adresse, bah ça se ressent directement, parce que finalement, quand on a des shoots de moins bonne qualité, on a une moins bonne adresse, et bah, le jeu global s'en ressent.
On a évoqué évidemment Joe Mazzulla. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa série? Donc, ajustement payant à partir du Game 6. L'utilisation du personnel sur les 2 derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises, on met les deux côtés les 4 dernières minutes hein, du Game 7. Mais sinon, c'est une équipe qui joue à 7. Est-ce que ça, dans l'optique de. Bah de série qui va y avoir encore au moins une et peut-être viser les finals, est-ce que ça peut pas être un problème ou pas, ou c'était juste sur ce coup-là?
Pour moi, ça c'est juste une question de 2 matchs. C'est pas rare de voir ça. Il me semble que c'était le cas sur les 2 derniers matchs contre les Bucks aussi. L'année dernière, on avait joué à 7 avec juste Derrick White et Grant Williams qui sortaient du banc. Vous pouvez me corriger, mais il me semble vraiment que c'était ça. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on voit assez souvent hein, dans les équipes de playoffs qui veulent absolument gagner, qui doivent gagner. On va aux 7 joueurs avec qui on fait plus confiance. Et là, Grant Williams a sauté. Je suis pas sûr que ce soit. C'est un peu du hasard dû au fait que ça ait marché, quoi. Je pense qu'on aurait très bien pu le voir. Il a été très correct en défense sur Embiid. Je pense que juste que le plan de jeu qu'on a proposé était plus efficace et lui, il peut pas vraiment rentrer dans ce rôle. Même si je pense qu'il pourrait jouer à côté de Rob dans le même rôle que Al-Horford, mais bon, on l'a pas vu. Je pense qu'il jouera. Enfin, je suis presque sûr qu'il jouera contre le Heat. Ça me paraîtrait un peu délirant de se priver d'un joueur comme lui, sachant qu'on est quand même favori et qu'on aimerait bien quand même ne pas trop mettre de kilomètres sur les jambes de tout le monde. Donc, je pense que c'était juste pour ces deux matchs-là. Et je pense que ça, la gestion du personnel a été assez hasardeuse. J'aurais bien aimé voir Grant Williams plus tôt, un peu mieux géré. Même s'il l'a fait, j'aurais bien aimé voir Rob Williams utilisé différemment un peu plus tôt parce que ça a été quand même assez problématique sur les 5 premiers matchs l'utilisation de Rob Williams qui était un peu inutile, on va dire. Donc c'était pas parfait de la part de Mazzulla et son coaching staff, mais au final on a gagné et on a gagné grâce à l'utilisation du personnel, donc on va pas s'en plaindre.
Hugo, est-ce que tu es dans la notion de hasardeux ou pas du tout?
De toute façon, je pense que globalement, toutes les équipes ont des rotations très très serrées en playoff. Après, bon, de là à être 7 tous les matchs, je pense pas. Je pense que comme Enias, justement, Grant Williams jouera un peu plus face à Miami, pardon. Je serais pas non plus étonné de voir un peu de Sam Hauser, dans le sens où, encore une fois, Miami a des joueurs qu'on peut, sur qui, par exemple, Sam Hauser pourrait défendre. Donc, je serais pas étonné de le voir. Donc, je pense que c'est plus anecdotique qu'autre chose, dans le sens où c'est un match 7, on est à la maison, il y a vraiment une grosse pression. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué sur le match, en tout cas sur le début de match, c'était l'intensité. L'intensité était assez folle sur la première mi-temps. Et on le voit d'ailleurs quand Derrick White et Malcolm Brogdon entrent dans le premier quart-temps, leur entrée est pas loin d'être catastrophique, en tout cas dans l'intensité. Ils n'arrivent pas du tout à se mettre au niveau du reste de l'équipe et ça se sent. Et je pense que Mazzulla, bon, sans dire que si ça s'était mieux passé pour ces deux-là, il aurait un peu plus ouvert son banc et peut-être remis Grant Williams. Je pense qu'il a vu seul, s'est dit, ah ouais, non, mais là, c'est difficile et pour un autre joueur du banc, ça sera trop compliqué. Donc on va rester sur cette rotation à 7 et on verra, quoi. Je pense que c'est aussi ça qui a joué.
Pour finir de parler de cette série, moi j'aimerais qu'on fasse un peu, alors pas le point joueur par joueur parce que ça va être un petit peu long, mais si on peut sortir un peu ceux qui vous ont particulièrement plu et ceux qui vous ont moins plu lors de cette série, côté Celtics évidemment. Qui veut commencer, Elias?
Moi, je vais commencer. Je vais lancer Marcus Smart quand même, car je pense qu'il fait sa meilleure série de playoffs de sa carrière. Encore une fois, j'ai pas vérifié. Je suis pas allé creuser, mais enfin, j'ai pas l'impression qu'il ait eu un très mauvais match. Et alors, il y a eu quelques décisions en attaque qui étaient assez hasardeuses, mais c'est du Marcus Smart. Hein, il en fait des fois un peu trop. Je sais pas si il aime bien le spectacle, ça se voit. Et des fois, il en fait un peu trop, mais il a quand même été absolument génial. Et au scoring, il a été d'une aide absolument précieuse quand Tatum était catastrophique, que Derrick White trouvait pas la confiance, n'arrivait pas à faire la même chose qu'il faisait en fin de saison régulière et un peu contre les Hawks. Donc ouais, pour moi, le plus gros plus, c'est Marcus Smart, qui a été pour moi, comme je l'ai dit, hein, je pense que c'est sa meilleure série de playoffs et qui a été absolument le meilleur joueur des Celtics sur la série, j'ai pas peur de le dire. Parce qu'en défense, on n'oublie pas ce qu'il fait en défense. Hein.
Et c'est surtout qu'on a retrouvé ce qu'il faisait en défense aussi, je trouve.
Ah oui,
C'est ça, c'est qu'on a retrouvé le vrai Marcus Smart, celui qui a été.
il a pas, j'ai pas vu une seule, j'en ai vu quelques-unes au premier match, mais des double teams hasardeuses qui très mal exécutées. On en voyait toute la saison de Marcus Smart et là j'en ai pas vu, ou presque pas. Il revient à son niveau de menace absolue qui génère des turnovers, qui mène la défense au bâton. Donc franchement, bon, pour moi c'est Marcus Smart qui m'a plu. Il y en a d'autres, hein, mais c'est lui le numéro un et je vais laisser Hugo en choisir un autre.
Vas-y, go.
Alors je sais que c'est difficile par rapport au nombre de matchs où il est passé à côté, mais En fait, j'hésite entre deux. J'hésite quand même entre Al Horford, parce qu'on est obligé de le mentionner pour sa défense sur Embiid, etc. Mais je vais quand même dire Jason Tatum, parce que alors ok, il passe à travers beaucoup de matchs, mais si on regarde bien, bon, le match 1, il doit, il est limite, il est proche de nous faire gagner en étant royal. Le match
Il
2,
est presque seul au match 1 quand
ah,
même. Hein.
totalement.
C'est, on oublie presque parce qu'il a. Tu vas le dire, hein, mais ces bons matchs, on les perd, donc on oublie ça, quoi.
Totalement, sur le match 1, bon, on sait que je suis pas le plus grand fan de Jaylen Brown, mais on l'attend toujours hein, sur le match. Bon, le match 2, il est bon comme toute l'équipe, j'ai envie de dire. Et au final, bon, il passe à côté de quelques matchs en milieu de série, mais quand il faut tuer le match dans le Game 6, match couperet, on l'a déjà dit, il est là. Et bon, le match 7, j'ai pas trop besoin d'en parler. Donc moi, j'ai aimé sa série malgré tout, parce que bon, même s'il manque d'adresse, j'ai quand même trouvé bon en défense et même dans les lectures, j'ai trouvé bon, même si encore une fois, il a été exposé par cette défense low man d'Embiid, etc. Il a dû faire beaucoup de choix enfin dans les lectures sur du drive et pas forcément kick justement. Donc c'était un peu dur pour lui. On a aussi payé le manque de créateurs élites dans notre équipe. Hein, c'est une constante. Même si encore une fois, comme l'a dit Ignace, Marcus Smart, c'est une bonne série. Mais voilà, j'ai globalement aimé sa série et bon, il monte en puissance sur la fin, j'ai envie de dire. Il sort un match énorme pour finir, donc j'espère qu'il est sur une bonne lancée pour la suite.
Et du
Vas-y,
coup, je me permets, hein, Pierre,
vas-y, vas-y.
comme Hugo en a parlé, c'est vrai qu'il faut en parler, parce qu'Al Horford, ça peut être, ça c'est obligé d'être mentionné, ces matchs défensivement sur Embiid, c'est absolument exceptionnel. Il n'est pas seul, hein, attention, c'est pas du 1 contre 1. 1 contre 1, il se faisait avoir la plupart du temps, hein, mais c'est normal, c'est le MVP de la ligue, hein, personne ne peut le défendre 1 contre 1. Mais ce qu'il a fait, comment il est actif avec ses mains, comment il met tout son physique en opposition pour l'empêcher même d'obtenir la balle, hein, c'est bête, mais lui faire mettre 5 secondes de plus à toucher le ballon et l'éloigner un peu du panier pour qu'il puisse pas être assez proche du panier quand il touche le ballon, c'est déjà une énorme différence, et Horford l'a fait absolument toute la série. Je pense qu'il doit être un peu fatigué. Voilà. Après, c'est sûr que il a été assez absent offensivement, même pire qu'absent, il a été mauvais parce qu'il ratait ses tirs, hein, tout simplement. Il proposait pas grand-chose d'autre. Et jusqu'à l'arrivée de Rob, en fait, jusqu'à l'arrivée de Rob dans le Starting Five, il faisait pas grand chose offensivement, mais sa série est tellement énorme défensivement qu'on est obligé de le mentionner, parce que voilà quoi, 36 ans, il fait ça, c'est génial.
Moi, je voulais juste rajouter pour aller dans le sens d'Hugo, c'est que Tatum, par exemple, qui est au travers complet dans le Game 6, je crois qu'à la mi-temps, il est quand même, où il est à un point hein, marqué, avec un magnifique 1 sur 10, je crois.
1 sur 14, il a un moment.
Ouais, mais c'était les stats à la mi-temps, je crois qu'il était quand même
Ouais.
à 6 rebonds et 6 ou 7 rebonds et 6 ou 7 passes.
Ouais.
Donc, preuve qu'il faisait pas rien non plus quoi et qu'il se reposait pas et que même s'il était pas dans un grand soir au tir, c'est peu de le dire, il participait quand même grandement dans cette équipe. On va passer maintenant au point un petit peu plus touchy, les joueurs qui vous ont le plus déçu. Quelqu'un veut se lancer?
Ouais, pardon. Je réfléchissais en fait entre Derrick White et Malcolm Brogdon. Je voulais savoir si Hugo allait se lancer ou pas. Moi, je vais me lancer. Je vais peut-être la hot take parce qu'il a quand même des bonnes stats. Hein. Si quelqu'un va aller voir ses game logs et veut se dire comment ça, Malcolm Brogdon a été mauvais sur la série, il a mis 20 points, 23 points, 15 points, 19 points. Et il a tiré à 52% à 3 points sur la série. Il a été excellent. Alors, c'est là qu'on peut se dire. Ben non, il n'a pas été excellent. Il a été atroce défensivement sur Harden, à part quelques positions qui peuvent être écartées du lot et montrées pour dire, mais non, regardez, il a très bien défendu sur James Harden. Non, non, il a été pour la plupart du temps très mauvais. C'est pas de sa faute, mais quand il est switch sur Maxi, c'est catastrophique. C'est normal, hein, il n'a pas la vitesse pour défendre sur ce genre de type de joueur, mais voilà. Et offensivement, c'est pas forcément que de sa faute, c'est aussi un manque de reconnaissance du coaching staff, à mon avis, parce qu'il, bon, il est juste pas capable de le faire, mais je trouve tellement négatif dans son apport offensif quand il joue avec Rob Williams, qu'en fait ça en devient mais catastrophique. Il prend le ballon, il dribble pendant 18 secondes, il est incapable de voir que Rob Williams est ouvert pour un lob, et résultat, on n'a pas d'attaque. Rob Williams ne sert à rien, et ça a été constant pendant 7 matchs. heureusement, sur les deux derniers matchs, ils jouent un peu moins ensemble parce que Rob Williams start, donc on les voit un peu moins ensemble sur le terrain, mais c'était pas du tout, enfin, offensivement, c'était pas possible quand Brogdon était en même temps que Rob, il en fait trop en fait. C'est un peu un Dennis Schroeder de luxe, je l'ai déjà dit, mais il rentre mieux ses trois points et il défend peut-être un peu mieux. Mais j'ai rarement vu un joueur aussi nul en transition. Il a juste peur, je pense. Je pense qu'il a peur de se blesser. Donc il fait rien, il attend. Et offensivement, avec Rob Williams, c'est juste pas possible. Il sert à rien. Et ça rend Rob inutile et lui inutile et nos positions presque gâchées. Donc c'est, pour moi, c'est un problème et j'espère qu'ils vont ne plus beaucoup jouer ensemble.
Hugo ?
Bon, j'ai rien à ajouter, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Malcolm Brogdon, sa série, c'était dur. Hein. Franchement, c'était dur à voir. Et juste une action vraiment qui symbolise pour moi sa série, le fait qu'elle était totalement en travers. C'est, alors, j'ai un doute, mais il me semble que c'est la dernière action de la mi-temps, mais d'hier sur le match 7, où il reste, je sais pas, il doit rester 3-4 secondes. Et en fait, il prend il joue à pick and roll tête de raquette. Le défenseur passe en dessous et au lieu de tenter un 3 points, ce qui est la décision logique, il va prendre un mid-range, enfin un tir. Bon, certes, il se retrouve quand même ouvert sur son mid-range, mais c'est un tir qui est analytiquement, en tout cas, nul. C'est un tir difficile quand on prend les analytiques. Ça rapporte, c'est moins rémunérateur qu'un 3 points. Donc en fait, rien que ça, c'est un mauvais choix. Et ce mauvais choix-là, ça symbolise en fait toute sa série. Dans le sens où, ok, comme Elias a dit, il a des bonnes stats, mais dans l'impact, honnêtement, si on doit me demander comme ça un match impactant de Malcolm Brogdon, j'ai du mal à en sortir un sur la série. Je sais qu'il doit sans doute y en avoir un, mais juste je m'en souviens pas comme ça. Et quand
le match 2 où tout le monde a été excellent.
Bah, même le match 2, je crois qu'il est, c'est un des seuls qui.
Si. Il a 6 sur 17, 3 points, 7 sur 15 au tir, 23 points. Il fait des bonnes minutes. Mais tout le monde était très bon et c'est un peu le match qui est normal de gagner, quoi, on va dire.
Ok, ouais, bah justement, j'avais ma mémoire était un peu biaisée, mais encore une fois, j'aime beaucoup Malcolm Brogdon et justement, si on l'a en joueur le plus décevant de la série, c'est parce que on sait que c'est un sixième homme de luxe, c'est le meilleur sixième homme de la ligue. C'est quelqu'un qui doit impacter une série comme ça et malheureusement, j'ai envie de dire, il n'a pas vraiment fait sur ces matchs.
Pour corroborer un peu ce que tu disais sur Malcolm Brogdon et Rob Williams, la connexion qui se fait pas, c'est aussi un truc que je trouve que le fait de mettre Rob Williams dans le 5, ça aide aussi pas mal Marcus Smart. Je trouve que les deux ont une bonne connexion qui est pour le coup très naturelle, contrairement à Malcolm Brogdon. Je suis un peu étonné qu'on ne mentionne pas dans les déceptions notre ami Jalen Brown, parce que rien que pour sa prise à deux sur Embiid sur le match 4, je crois, je ne sais plus, calamiteuse qui rend le 3 points ouvert pour le buzzer de Harden, je suis étonné que vous ne mentionnez pas.
Pour moi, il fait une série Jalen Brown. Il est ni vraiment décevant parce qu'on s'attend à ça avec lui maintenant, ni excellent, mais il n'est pas non plus très mauvais. Enfin, il apporte un bon scoring au-delà de secondaire des fois quand Tatum est très mauvais. Défensivement, il est toujours présent sur l'homme, même si off-ball, c'est toujours la même chose. Hein. De toute façon, on répète la même chose depuis. Ça fait combien de temps qu'on fait ce podcast ? Un an. On répète la même chose depuis un an. Pour moi, il fait une série de Jalen Brown. Moi, je pense qu'on aurait pu parler un peu d'Eric White, qui passe complètement à côté de sa série. Pour le coup, lui, il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a pas retrouvé son niveau qu'il avait en fin de saison. Ça a l'air d'être un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Et là, il a l'air de l'avoir perdu. Et le fait de perdre son rôle de starter, de jouer 19 et 12 minutes sur les deux matchs les plus importants de notre saison pour l'instant, et qu'on les gagne du coup sans lui, sans vraiment avoir besoin de lui, ça va peut-être encore lui mettre un coup au moral. J'espère que non, parce qu'on peut l'avoir besoin contre le Heat. Enfin, on va avoir besoin de lui contre le Heat, surtout vu leur profil de joueur, hein, les Max Strus, les Gabe Vincent, tout ça, c'est les bons match-up pour lui. Donc, je suis un peu déçu de sa série. J'espère que j'ai pas grand-chose d'autre à dire, parce que de toute façon, on le sait très bien. Lui, quand il est agressif, tout va bien. Quand il est pas agressif, il sert pas à grand-chose. Et ça se voit même défensivement. Hein. C'est son match, on voit très bien hein, l'énergie qu'il a dans un match. Il va rarement devenir meilleur au cours du match. Et ça, des fois, ça peut suffire sans catch and shoot. Et des fois, ça suffit pas. Et même ça, il l'a pas. Et là, c'est très problématique, quoi. Donc, j'espère qu'il va réussir à se réveiller un peu et apporter cette dimension d'agressivité dont on a besoin pour, comme je l'ai dit, hein, pour aller toucher la peinture et écarter la défense pour pouvoir obtenir soit des opportunités de drive, soit des bons 3 points. Et c'est lui qui joue sur ça aussi, qui nous permet d'avoir ces tirs-là. Donc, un peu déçu de Derrick White.
Hugo, pour revenir à toi, il y a aussi une autre action de Malcolm Brogdon, là, j'y pense maintenant, c'est celle au game 1, où après le dernier temps mort, où Philly est repassé devant, où il perd la balle en faisant n'importe quoi. C'était aussi Malcolm Brogdon qui était sur ce coup-là. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Derrick White a un petit peu un côté contextuel par rapport au profil de Philly? Est-ce que ce n'était pas pour lui un peu la pire match-up possible? Qui pourrait un peu nuancer le fait qu'il fasse une série vraiment pas ouf.
Pire match-up, je sais pas. C'est sûr que c'était pas un match-up qui était ultra avantageux. Déjà défensivement, bon, je pense que déjà les choix défensifs étaient pas ouf. Et en plus, bah oui, défendre sur James Harden, même si on va me dire que James Harden est, bon, certains vont dire que James Harden est fini. Je pense quand même que dans les lectures de jeu, ça reste un gars de tout premier ordre en termes de création, même si bon, sur le match 7, il fait totalement n'importe quoi, il perd je sais pas combien de ballons, mais bref, ça reste quand même un joueur qu'il faut, enfin, qui est pas facile à défendre. Mais oui, en attaque, c'est sûr que c'était difficile pour lui. Encore une fois, c'est un joueur qui, bon, certes, il a mis dedans 3 points sur l'année. Là, comme je l'ai dit, niveau driving kick, c'est plus compliqué. Et bon, le fond de commerce de Derrick White, outre le tir, c'est la finition près du cercle. Et là, bon, on l'a vu dans les premiers matchs, se faire bâcher assez salement plusieurs fois par Embiid et même, il me semble, par Paul Reed deux, trois fois. Bon, après, au niveau confiance, je pense que comme Elias l'a dit, le moral devait être dans les chaussettes et c'était un peu plus compliqué sur la suite de la série. C'est vrai qu'il n'a pas été bon. Il n'a pas non plus été catastrophique, je pense. Il a juste été mauvais, pas moyen moins en fait. Il a été mauvais, il n'a pas été catastrophique, il n'a pas été bon. Je pense que si on regarde ses ratings, ça doit pas être non plus, ça doit être bon, ça doit être un peu en dessous de, ça doit être négatif, mais pas très très négatif. Donc, je pense que ça a pas été un facteur sur la série, mais c'est pas, il y a encore la place pour revenir contre lui, je pense.
Et ben le 8, justement, on va en parler parce qu'on va passer au côté preview maintenant avec cette opposition, cette énième opposition face au 8, j'ai envie de dire. Miami qu'on n'attendait clairement pas là, hein, qui ont sorti les Bucks au premier tour avant de se défaire des Knicks relativement tranquillement, j'ai envie de dire. 4-2. Une équipe surprenante parce qu'il y a quand même pas mal de blessés. Qu'est-ce que vous avez vu du Heat et qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, j'ai vu de la magie noire et ça m'inspire pas du bon parce que je comprends pas comment c'est toujours possible. Ils sont mauvais, hein, il n'y a pas d'autre chose à dire, je suis désolé. C'est de la magie noire. Ils ont le meilleur coach peut-être de l'histoire de la ligue. Peut-être une hot take, je suis désolé, mais Eric Spoelstra, c'est quand même quelque chose. Ce qu'il arrive à obtenir des mecs comme Duncan Robinson, Max Strus, Gabe Vincent, ils joueraient pas dans aucune autre équipe. Et là, ils sont starters, ils gagnent des matchs tout seuls pour le Heat. Donc, franchement, c'est assez mystérieux pour moi. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé parce que leur match, c'est pas du très beau basketball, c'est pas très impressionnant à voir. Jimmy Butler va être Jimmy Butler. Je pense qu'il va falloir réussir à le contenir d'une manière intelligente, pas non plus en laissant tous les autres se lancer parce que il va pas gagner la série tout seul. Il a pas un assez bon joueur autour de lui, même s'il met 40 points par match, je pense qu'on peut quand même gagner. Donc je pense il va falloir défendre normalement et prendre ça comme une équipe qu'on peut battre, qu'on doit battre. Et tout en restant concentré sur notre jeu, quoi. Sans en faire trop, on va dire.
Hugo, est-ce que tu as vu des matchs un petit peu face au Heat? Alors le Heat qui était quand même, enfin, face au Knicks, pardon, les Knicks qui étaient une opposition un petit peu bizarre parce que c'est une équipe qui se passe pas du tout là-bas, le New York. Est-ce que ça t'a inspiré des choses?
Alors, je vais pas te mentir, j'ai pas vu énormément de matchs contre les Knicks, j'en ai vu deux.
Ouais, pareil.
Par contre, j'ai vu tous les matchs contre les Bucks. Et honnêtement, alors, encore une fois, c'est pas pour dire oui, on l'avait dit, etc. Mais je pense que j'avais tweeté après le match, on met, je sais plus, plus 30 aux Bucks. Mais en fait, les Bucks en playoff, c'était juste bah, pas prévisible parce que je pensais qu'ils passeraient le Heat, mais que derrière, bon. Ça aurait été compliqué pour eux face à. Je pensais Cleveland à l'époque, mais bon, face aux Knicks, je sais pas. Mais je pensais en tout cas que si on prenait Milwaukee, on les aurait broyés. Parce qu'en fait, quand on joue en NBA avec Joe Ingles, en 2023 avec Joe Ingles, Pat Connaughton, des joueurs comme ça qui sont complètement cramés, c'est juste pas possible d'exister. Et justement, bah, je les attendais pas. J'attendais pas Miami. Les cibler autant, mais au final sur la série face aux Bucks, on a vu que bon Jimmy Butler était exceptionnel, il n'y a rien à dire. Mais au final, Jimmy Butler était bon, mais si on regarde la série, l'adversité était vraiment moyenne. Hein. Sans vouloir manquer de respect à Giannis, mais on voyait que lui aussi n'était pas à 100%. Chris Middleton, bon c'est très très compliqué depuis son retour de blessure. Finalement, le seul extérieur correct, j'ai envie de dire, c'était Grayson Allen. On connaît Grayson Allen en playoff, on sait qu'il se fait cibler. Donc oui, Jimmy Butler a fait une super série, mais il n'y avait pas non plus quelqu'un pour l'arrêter. Face aux Knicks, bon, sur les matchs que j'ai vus, Jimmy Butler n'a pas été bon justement. Mais comme Elias l'a dit, c'est de la magie noire en fait. Le truc, on ne sait vraiment pas comment il gagne à chaque fois, mais il gagne. Il y a des joueurs qui vont te sortir des matchs à 25, je pense à Caleb Martin, notamment, bah dans le match où Butler, au premier tour, dans le match où Butler en met 50, Caleb Martin fait un super match, il en met 25, il met des gros tirs, etc. Max Strus, pareil, est toujours capable de sortir de sa boîte. Là, il y a le rebound de Duncan Robinson. Donc, en fait, ils sortent des joueurs, pas de nulle part, parce qu'on les connaît, mais à chaque fois, il y a un mec qui va réussir à contribuer. Donc, nous, en fait, le défi dans cette série, ça sera d'arrêter ça, d'accepter le fait que Butler peut nous en mettre 35, peut nous en mettre 40. Derrière, si on arrive à limiter l'impact des role-players et notamment des shooters, ça devrait pouvoir le faire. Parce que aussi, on l'a pas mentionné, mais Bam Adebayo sur ses playoffs, c'est quand même assez compliqué. Il est bon, mais c'est pas le Bam Adebayo de la bubble par exemple, où il était ultra impactant. Il est bon, par exemple, c'est pas le Bam Adebayo de l'an dernier non plus. Donc, est-ce que lui aussi va réussir à step up et à retrouver ce niveau qu'il avait ne serait-ce que l'an dernier, c'est une autre question. Parce qu'encore une fois, on a le matériel. On sait que Grant Williams, notamment, adore match-up contre Bam Adebayo. Donc, je pense que là aussi, il va devoir, en tout cas, il devrait jouer.
Justement, pour parler un peu de Miami, le miracle permanent, c'est quoi un petit peu les forces et faiblesses, le style de jeu de cette équipe qui, je rappelle, est privée, pardon, de Tyler Herro et de Victor Oladipo, qui sont pas quand même qui sont des joueurs quand même assez impactants, au moins le premier en temps normal, au moins offensivement. Comment ça joue, comment ça s'adapte? C'est vraiment all-in avec Butler, Bam et les autres qui tournent autour et qui récupèrent les tirs ouverts. Ça se passe comment un petit peu? Et en plus défensivement, on sait que Spoelstra aime bien varier les plaisirs entre de l'indive, la zone. Ça, c'est quelque chose qu'il adore. Donc, comment ça se passe les matchs du 8 un petit peu? Pour ceux qui Je pense aux auditeurs qui ne regardent pas du tout le 8, à quoi ils doivent s'attendre.
Ils doivent s'attendre à Kyle Lowry, Jimmy Butler et Echo qui sont absolument insupportables, qui font tout défensivement. Il y a une expression que les Américains utilisent beaucoup, c'est le rat mode, c'est le mode rat. Et ça décrit très bien le Miami Heat, hein, c'est des rats sur le terrain de basket. C'est pas négatif en soi, c'est une bonne
En France, on dirait des chiens, quoi.
Un peu. Bah, plus vraiment, les chiens, c'était plutôt les Knicks de Tom Thibodeau, plutôt, tu vois, genre assez énervé et qui te court dessus. Là, les rats, c'est vraiment tout ce qu'ils peuvent faire pour t'embêter, pour aller chercher l'avantage via n'importe quel moyen, ils le feront. Donc, je pense à Kyle Lowry, entre les arbitres, les charges, tout ça, voilà. Donc, en fait, il faut s'attendre à beaucoup de volonté de leur part, on va dire ça gentiment. Beaucoup de réussite. Tous les matchs qu'ils gagnent, j'ai l'impression qu'ils tirent 50% à 3 points. Donc, ça, c'est juste la magie noire. Et aussi, ils ont, bah, comme j'ai dit, hein, ils ont Eric Spoelstra. Donc, beaucoup de défense en zone, beaucoup de création, enfin, d'innovation, on va dire, pardon, défensivement, qui va essayer de sortir des joueurs des matchs, des joueurs adverses des matchs, pardon. Et faut s'attendre à. En fait, ils jouent vraiment, ils n'ont pas un jeu très remarquable en attaque, hein. C'est assez relativement simple, hein. c'est du pick and roll basique. Ils ont Bam Adebayo et Jimmy Butler qui créent du jeu, et derrière ils ont des tireurs. Ils essayent un peu de jouer en transition pas mal, donc c'est vraiment un basket offensivement au moins, du moins assez simple. Défensivement, il y a plus de volonté d'innovation, comme j'ai dit, mais faut pas s'attendre à des choses folles, et faut pas non plus s'attendre à des matchs, comment dire. Pour moi, ça va être tout. Ils ont un style de jeu et ils le suivent, et ça va juste être pour eux. C'est qui de Max Strus, Kyle Lowry, Duncan Robinson, Kellen Martin, en plus de Jimmy Butler, va faire un bon match, et dans ce cas-là, ils peuvent gagner, quoi, en gros.
Hugo, qu'est-ce qu'on peut penser de cette alchimie sur le papier bizarre? Est-ce que ça les rend pas du coup plus dangereux, sachant que pourtant, Boston est annoncé grandissime favori dans cette série. J'ai vu le pourcentage de victoire pour Boston face au Heat, enfin pour que Boston passe en finals, il est de 97% selon ESPN.
Bon, ça, après, je n'accorde pas une grande importance, parce que je pense que si on avait regardé avant la série contre Milwaukee, par exemple, il aurait été 99 ou quelque chose comme ça. Mais bref. Non, juste pour revenir sur ta question précédente, ce qu'on attend de Miami, en tout cas moi ce que j'attends, c'est simple, c'est Jimmy Butler prend le ballon, remonte le ballon, joue un pick and roll avec Bam Adebayo, prend un mid-range, de temps en temps il va se retrouver derrière la ligne à 3 points, il va pull-up, mais honnêtement il n'y a limite rien de plus. C'est ça qui est terrible, qui est déroutant avec cette équipe, c'est qu'offensivement il n'y a rien du tout. Mais ils vont gagner en défendant, en laissant l'adversaire à, je sais pas, 92 points. Bon, des fois, ils vont en mettre 105, eux, ils vont en mettre 106 ou 108. Mais c'est franchement déroutant de voir lui jouer. Et sinon, je sais plus quelle était exactement ta question, si tu peux me remettre sur la voie.
C'est une bonne question. C'était plus sur le fait que bah, Boston était grandissime favori, et que du coup, comment ça devrait se passer, quoi.
Ouais. Bah, alors oui, je suis d'accord sur le fait que Boston est favori, grandissime favori, je ne sais pas, parce qu'en fait, on a vu que Boston n'était pas non plus ultra souverain. Je pense qu'en fait, actuellement dans la Ligue, si on me demande, il n'y a qu'une seule équipe qui est vraiment souveraine. Donc, on est favori, c'est sûr. Si on joue sérieusement comme on l'a joué sur le match 7, sur aussi le match 2, même sur le match 3 où j'ai trouvé qu'on a été sérieux du début à la fin, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le souci, c'est qu'on est une équipe qui est capable du meilleur comme du très 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 mauvais. Et face au Heat d'Eric Spoelstra, qui est une équipe qui... En fait, c'est une équipe qui est très linéaire, j'ai l'impression, qui est jamais excellente, qui est jamais mauvaise, mais qui est toujours bonne, toujours pour la gratter. Donc il va falloir que nous, en fait, on garde notre niveau juste au-dessus d'eux. En fait, parce que notre niveau, si on veut, si on prend nos up et nos down, nos up sont mais à des années-lumière du 8, dans le sens on est vraiment bien bien meilleur qu'eux. Par contre, nos down sont bien bien en dessous du 8. Il va falloir qu'on soit régulier au-dessus du 8. Donc en étant bon, tout le long de la série, concentré, que ce soit en attaque ou en défense, et surtout, j'ai envie de dire, en attaque dans les lectures, parce que quand Miami récupère un ballon sur la zone, derrière ça court.
Et on a vu que justement dans la série précédente, que quand ça courait vite en contre-attaque, genre Tyrese Maxey, on récupérait quand même pas souvent, même si je pense pas qu'ils aient des athlètes de ce niveau-là à Miami. Pour vous, ça va être quoi les clés de la série là? Qu'est-ce qu'il va falloir absolument être en mesure de gérer sur les fondamentaux basiques pour pouvoir s'offrir des victoires?
Moi, ça va être premièrement, c'est limiter les opportunités de rebond de Bam Adebayo, c'est-à-dire en fait box out, hein, tout simplement l'empêcher d'aller au rebond offensif, parce que ça peut être un des problèmes qu'on a vu, qui nous a posé problème précédemment contre différentes équipes. Et si je pense qu'on va garder la double big lineup, j'espère en tout cas, et je pense que ça va être important d'avoir Rob là-dessus pour s'assurer qu'on récupère les rebonds qu'on peut récupérer et qu'on doit récupérer, parce que ils vont gagner, hein, comme ça on l'a dit, hein, ils vont gagner les matchs, le hit, par la transition, par les rebonds offensifs, par les secondes opportunités qu'on leur laisse. Donc si on maîtrise ça, et si on apprend à attaquer la zone, ce qu'on n'a apparemment toujours pas appris, 15 ans après, moi, j'ai jamais vraiment joué au basket à ce niveau, donc je ne peux pas dire, mais je pense qu'ils ont tous joué au basket depuis longtemps, ils devraient attaquer une zone correctement, et j'ai pas l'impression qu'ils sachent vraiment le faire. Donc c'est un peu inquiétant par moment, et surtout quand on se dit que c'est des zones de Doc Rivers par rapport aux zones de Eric Spoelstra, ça peut être assez effrayant. Donc pour moi, les clés, ça va être ça. Ça va être offensivement ne pas tomber dans les travers de une passe, un tir quand on a une zone un peu dérangeante en face de nous. Et défensivement, c'est très basique ce qu'on va devoir faire, hein. Ça va être juste défendre correctement sans rentrer sans concéder trop de fautes, pardon. Tout en prenant des rebonds, hein. C'est très bête à dire, mais c'est comme ça qu'ils gagnent leur match. Donc c'est comme ça qu'il faut qu'on les empêche de gagner les matchs, quoi.
Hugo, ton avis sur les clés de la série?
Je suis d'accord avec Elias sur notamment le rebond off, enfin pour nous le contrôle du rebond off. Pour moi, la grosse clé de la série, et pour les deux équipes, bon, ça va être très bateau ce que je vais dire, je vais faire une analyse un peu en mode trash talk, hein, si j'aime bien dire ça des fois. Mais la clé de la série, pour moi, ça va être l'adresse, mais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Parce que contre Atlanta, bon, on n'a pas joué un super basket, hein, loin de là. Surtout en défense, j'ai l'impression. Parce qu'en attaque, on a plutôt fait du bon basket. Bon, ça pouvait être mieux, évidemment, mais si on regarde les ratings, c'est cohérent. Mais contre Atlanta, on arrivait à créer des bons tirs. Vraiment des très bons tirs à 3 points, des tirs ouverts, etc. Et si on regarde le nombre de shoots open, voire wide open qu'on a créé, c'était très très satisfaisant. Alors que contre Phoenix, c'était beaucoup plus compliqué. Et même limite, quand on avait des wide open, on les a pas mis. Donc en fait, pour moi, la clé, ça va être l'adresse, dans le sens où il va falloir créer des bons tirs. Et pour Miami, eux, ils sont sur régime total derrière la ligne. Ça, c'est un fait. Hein. Elias l'a dit, ou c'est toi peut-être, je sais plus. On a l'impression c'est Elias qui shoot toujours à 50% quand il gagne, ben c'est vrai. Et justement, donc en fait, eux, je pense pas qu'ils aient un. Ben, je les vois pas avoir un gros trou d'adresse, dans le sens où ils sont. En fait, ils sont en mission, ils arrivent à jouer comme ça. Mais en fait, pour nous, l'enjeu, ça va être de pas. Bon, si eux shootent à 50%, ça va être de pas shooter à 25%. Il va falloir qu'on concède pas un trop gros écart entre le nombre de points que eux vont marquer dans la ligne et le nôtre. Et en fait, c'est justement NBC Sports Boston qui utilise beaucoup cette stat, généralement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Brian Scalabrine, et bon, je pense qu'on est beaucoup à ne pas trop aimer, mais c'est un des trucs intéressants qu'il dit à chaque fois. En fait, il compare généralement le nombre de 3 points marqués par les Celtics et le nombre de 3 points marqués par l'adversaire, et il fait la soustraction, en gros, il fait la soustraction pour voir combien de points on a marqué de plus derrière l'arc. Et là, j'ai peur, en fait, que Miami, en mette beaucoup plus. Donc, il va falloir rester dans un ratio acceptable, pardon, parce que je pense que sur tous les autres compartiments du jeu, on est largement meilleur qu'eux.
On va rappeler un petit peu, on n'a pas parlé, le starting five de Miami. Pour ces playoffs, en tout cas, c'est Bam Adebayo au centre, en pivot, en ailier fort, c'est Kevin Love, en poste 3, Jimmy Butler, poste 2, sur les postes de garde, Max Rousse et Gabe Vincent, dont on a mentionné le nom tout à l'heure. Donc là aussi, aucune star. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc à aller chercher parce qu'on sait que Kevin Love n'est pas le défenseur de l'année? On sait aussi que notre ami Duncan Robinson, qui revient dans la rotation, lui qui a souvent été mis de côté par Spoelstra, c'est pas non plus un super défenseur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen là de cibler le jeu plus?
Oui, pour moi, ça va être. On va essayer de retrouver ce qu'on a vu contre Atlanta. Ça va être de cibler les défenseurs faibles. On l'a pas vraiment fait contre les Sixers, même si on avait à cibler. Hein. Harden a fait une bonne série défensive quand même. Faut lui donner ça. Maxi a été correct, mais il était quand même très limité malgré tout. Donc, je pense qu'il va falloir, comme tu dis, essayer de trouver les faiblesses. Surtout qu'ils ont des individualités très fortes en défense. Hein. Je pense à Bam Adebayo, je pense à Jimmy Butler. Je pense à même Max Strus et enfin surtout Gavin Selt à son poste, il est pas du tout ridicule. Il est pas génialissime, mais il fait très bien le travail. Donc je pense qu'il va falloir réussir à chercher les faiblesses et comme on a dit, hein, pas rentrer dans la caricature du mauvais jeu, les mauvais tirs, tout ça, parce que ça peut nous coûter. Comme dit Hugo, le 3 points va être important et le volume de 3 points tirés va être important, enfin forcément le pourcentage aussi, mais je me souviens à la fin du premier quart-temps dans le match 7 contre les Sixers, on avait tiré que 5 3 points, ou peut-être 6. Et en fait, c'est juste tout simplement pas assez, quoi. Joe Mazzulla le dit très bien, il adore les mathématiques, et ce qui rapporte le plus de points, bah, c'est les tirs qui rapportent 3 points. Donc faut les tenter. Et comme a dit Hugo, je pense que une des clés, ça va être de réussir à empêcher à la fois les leurs tirs à 3 points d'être dans des situations où ils peuvent en tirer beaucoup. Donc si ça passe par attaquer Duncan Robinson en défense pour qu'il soit juste injouable sur le terrain, pour ne pas qu'il puisse nous mettre des 3 points n'importe quoi, je pense que ça peut être une bonne option, ouais.
Est-ce que moi j'ai eu l'impression en tout cas qu'on est enfin rentré en playoff lors de la dernière série là. J'ai l'impression que contre les Hawks on était encore dans le prolongement de la saison régulière et j'ai pas eu l'impression de voir des matchs de playoff très clairement. La faute sans doute, mais la faute aussi à Boston eux-mêmes. Et le fait de s'être fait peur d'avoir été mené 3-2 comme ça. J'ai retrouvé des attitudes de l'équipe de l'année dernière. J'ai trouvé, par exemple, au Game 6, que Horford avait été très très vocal. On voyait aussi Marcus Smart parler beaucoup. Enfin, c'est un habitué, mais voilà. On a senti sur les deux derniers matchs une énergie nouvelle, voire différente. Est-ce que pour paraphraser Jaylen Brown, the energy is about to shift.
Bah, je sais pas, mais je sais pas si l'énergie est en train de shifter. En tout cas, c'est sûr que je pense que le fait de perdre ce match 5-5 à domicile et surtout avec la manière, ben, de la manière avec laquelle on l'a perdu, ça a mis un peu de plomb dans les têtes et on l'a vu dans le match 6. Bon, on fait pas un grand match de basket, loin de là, mais en tout cas, dans le combat, dans l'intensité, et l'intensité, j'en veux pour preuve la première mi-temps, surtout le deuxième carton, il me semble, où on leur passe un énorme run, enfin début de deuxième carton, on leur passe un énorme run, et dans les attitudes, on marquait un panier, on récupérait le ballon, on voyait Marcus Smart qui descendait direct sur les jambes, prêt à défendre, etc. Et j'ai vu des attitudes que j'avais pas vues depuis limite le début de saison, où on était en mission après justement la finale perdue, on était en mission, on voulait vraiment casser des gueules à toutes les équipes qu'on voyait. Là, j'ai retrouvé ça sur le match 6, le match 7. Bon, évidemment, on va trouver des exemples de certains matchs où ils font ainsi. Hein. Je vous connais sur Twitter, mais non, je rigole. Mais non, j'ai retrouvé des attitudes très très positives sur les matchs 6 et 7. Et j'espère justement que ça va continuer parce que justement, Miami, on les connaît. On sait que eux, comme on l'a dit, c'est pas une bonne équipe, c'est pas une excellente équipe de basket, mais dans l'attitude, dans le combat, ils vont être là. Bon, sans dire encore une fois que le basket, c'est le combat façon rugby, Patrice Collazo, tout ça, c'est pas le cas, hein, mais dans l'intensité, eux, ils vont arriver comme des morts de faim. Donc ça va être à nous de répondre en mettant quand même notre basket en place parce que c'est ça qui va nous faire gagner, plus que le combat.
Elias, Est-ce que tu es sur ce point-là, sur la même ligne que nous, entre guillemets?
Ouais, là je suis complètement d'accord, il va falloir se concentrer. Je pense que le hit va se faufiler dans chaque brèche qu'on leur laisse, et donc faut essayer de vraiment pas leur en laisser, parce que c'est comme ça qu'ils vont gagner leur match. Donc en étant le plus simple et le plus bateau possible, hein, je pense qu'il va juste falloir jouer notre jeu, défendre comme on sait le faire, et normalement ça devrait aller, quoi.
J'avais dans le plan que je vous ai envoyé, vous avez dit est-ce que Boston n'est finalement pas son meilleur ennemi? Parce que j'ai l'impression qu'on a une fâcheuse tendance quand même, et moi c'est ce qui m'inquiète légèrement pour la série à venir, à prendre les adversaires de haut, à être limite un petit peu condescendant par moment. J'ai eu cette impression-là beaucoup face à Atlanta. Je l'ai eu un petit peu aussi sur le game 1 face à Philly, où on s'est dit, ah, il n'y a pas Joel Embiid, ça va aller, tranquille, machin. On s'est pas fait mal, quoi. J'ai eu l'impression qu'on, voilà, on a pas fait les efforts plus que ça, on n'était pas dans la dureté. On l'a tellement pas vu vraiment de la saison, ce côté-là, que je me demande si c'est reproduisible encore, ou si c'est vraiment enclenché, en fait. Autant le hit avec Jimmy Butler, on sait que quand ils enclenchent, ils enclenchent. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, c'est parti. On ne sait jamais quand. On sait toujours que au début de saison, c'est toujours difficile. Et puis, au bout d'un moment, en janvier, février, ils se réveillent et bim, c'est parti. Là, c'était un peu plus tard. Mais voilà. Est-ce que nous, on est capable de faire ça, d'avoir ce mode playoff un peu comme, comme Jimmy Butler là, comme LeBron James était capable de le faire avec les Cavs, par exemple. Est-ce que. Où c'est pas où ça reste encore un peu sporadique,
Oui,
messieurs.
je pense qu'on est capable. Je pense que c'est un peu, j'ai pas envie de dire réducteur, parce que je pense que sur la série contre Atlanta, t'as raison qu'on les a un peu pris de haut et ils ont pas joué très sérieusement. Je pense que contre les Sixers, ils les prenaient au sérieux. Peut-être le match, hein, t'as peut-être raison dans le fait qu'ils, sans Embiid, ils se sont un peu relâchés. Mais les Sixers étaient une équipe quand même très capable, et il fallait quand même amener de quoi les battre si quand ils jouaient bien. Et on a vu que les matchs qu'on gagne, c'est ceux où Harden est très très mauvais. Donc c'est quand même une bonne équipe avec qui a une variance assez haute selon le niveau de ses stars. Donc je pense qu'on les a, je suis pas sûr qu'on les ait vraiment pris de haut à ce niveau-là. J'ose espérer que par expérience, c'est quand même la troisième finale de conférence en 4 ans, 5 ans contre le Heat. J'ose espérer qu'ils savent, ils s'affrontent qui ils ont affaire, à qui ils ont affaire, pardon. Ils s'affrontent qui ils vont jouer, et qu'est-ce qu'il faut amener comme énergie pour prétendre gagner une série contre eux, parce que ils le savent, hein, ils l'ont fait, ils ont perdu, ils ont gagné contre eux en finale de conférence. Donc pour moi, le mode playoff devrait être enclenché. Après on va perdre le premier match parce que Jalen Brown va faire n'importe quoi, ou parce que Tatum va tirer à 1 sur 20, hein, c'est sûr, mais le mode playoff sera enclenché quand il faudra, je pense.
Go.
Bah, c'est sûr que je suis d'accord avec toi sur la série contre Atlanta. Je suis d'accord aussi sur le match 1 où j'ai trouvé qu'on a été un peu suffisant sur quelques possessions clés. Mais au global, je pense que au final, le mode playoff, en fait, même si on l'a pas eu sur toute la série, je pense contre les Sixers, il y a certains moments, bah, je pense par exemple au match 5 où on arrive au début, bon, certes, dans les interviews, on nous dit. Oui, on sait que c'est un match à la mort, etc. Il faut gagner. Finalement, sur le terrain, en tout cas en début de match, j'ai pas senti ce sentiment d'urgence. Mais quand il a vraiment fallu, quand on a été dos au mur, quand il a fallu passer ce mode vraiment urgence, on a su le faire. J'espère que la série contre les Sixers a été en tout cas pas un déclic, mais
Oui.
un avertissement vraiment sans frais. Et je pense que ça, j'espère en tout cas, ça a été ben voilà, le dernier avertissement avant la sanction, quoi.
Pour finir, on va faire un jeu. Je sais que Elias déteste ce jeu. On va se mettre à la place de Joe Mazzulla et savoir qui on met dans le bain pour ces finales de conférence, qui on utilise et pourquoi faire. Alors, Elias, je sais que tout de suite tu vas me dire, c'est impossible de se mettre dans la tête de Joe Mazzulla. Oui, moi je sais, mais c'est pour ça que vous êtes là, les gars, donc on y va.
Bah, là, pour le coup, je vais me contredire moi-même. Je pense que là, c'est assez facile de se mettre dans sa tête. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que vu au-delà du niveau sur le terrain qu'on a vu avec Alorford et Rob Williams qui jouent ensemble dans le Starting Five, vu les déclarations qu'ont pu faire Smart et Horford sur à quel point ils étaient heureux de retrouver Rob Williams dans le 5 de départ, je pense qu'il serait vraiment, pour le coup, la fou et débile de pas continuer avec Starting Five de Rob Williams et Alorford. J'ai eu la discussion un peu ce matin, vite fait, avec Guillaume sur Twitter du Basket Lab qui disait que lui, comme moi, il pense que Rob Williams restera dans le Starting Five. Peut-être qu'ils seront un peu moins utilisés en même temps ensemble. Donc, au lieu de voir une vingtaine de minutes avec les deux sur le terrain, on aura peut-être 12-13 minutes avec les deux sur le terrain. Parce que Grant Williams sera plus utilisé, parce qu'on aura un peu moins besoin de ce jeu en double big, mais ils seront utilisés ensemble. Et pour moi, je suis presque prêt à mettre ma main à couper et que ce sera le cas, qu'ils joueront ensemble dans le même starting five.
Je suis plutôt d'accord avec Elias. Après, honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'il revienne sur son 5 classique, mais pour ma part, je milite plutôt pour le double big, même si on l'a vu cette saison, ça a pas trop fonctionné. En saison régulière, en tout cas. En playoff, on voit que, bon, quand la pace est un peu plus lente, surtout quand on finit, ça, bon, hormis Maxi, quand on récupère des ballons, etc., ça allait vite, mais globalement, vu l'état d'Embiid, en plus, il fallait ralentir le jeu maximum. Je pense que Miami, ce sera une équipe qui jouera plutôt lentement aussi. Donc, autant tenter de les gêner demi-terrain. Et je pense que, justement, si on a une stratégie utile, par exemple, sur le mid-range de Butler, si on peut switcher avec des Rob Williams pour venir le gêner avec ses longs bras, ça peut être plus intéressant que de jouer avec Derrick White, qui, je pense, se fera laver par Jimmy Butler sur ses mid-range. Donc,
oui, surtout, je me permets de te couper, surtout que, comme on l'a dit, ils vont commencer leur match avec Adebayo et Kevin Love, qui est quand même un grand profil. Donc, ce serait bête de pas profiter de ça pour nous aussi jouer grand, quoi. Ce serait, enfin. Je pense ça nous sert plus qu'à eux de jouer grand contre grand, on va dire. Donc, pour moi, ce serait bête de pas le faire. Voilà.
Messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ça fait une heure qu'on parle ensemble, justement, de la review de face à Philly et la preview face au Heat. Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant?
Ouais, je vais juste en placer une pour Joe, qui aurait bien aimé être là avec nous pour parler des Sixers et se moquer un peu de Philadelphie, surtout que j'ai vu qu'il était très actif sur Twitter contre les fans des Sixers. Donc,
il était en mission lui aussi.
On en place une pour Johan quand même, qui doit être, que je sais, qui est au 7e ciel d'avoir gagné cette série, qui était probablement assez stressé et désemparé après le Game 5. Donc, dédicace à lui, et j'espère qu'il est heureux et qu'il va continuer à me faire rire sur Twitter en répondant aux fans des Sixers.
D'ailleurs, calme-toi quand même, Joe, parce que des fois, voilà, on sait jamais. Calme-toi, ne tombe pas dans les trolls des fans des Sixers qui sont. D'ailleurs, moi, je passe un petit coucou. Bon, il nous écoutera pas parce que visiblement, il aime pas trop le basket, hein, il préfère la bagarre, mais un petit coucou au compte FR Sixers, là, je sais plus le compte, mais qui chialait sur la désignation des arbitres 5 heures avant le match. Alors j'ai vu des concepts j'ai vu quelques concepts sur Twitter, mais alors celui-là on l'avait jamais fait, donc voilà, big up à lui, j'espère qu'il a apprécié l'arbitrage qui en plus, soit dit en passant, était plutôt bon sur le game set. Donc voilà.
Ils ont inventé la règle du retour en zone, hein. Sur Tobias Harris, j'ai jamais vu ça.
C'est vrai que la première mi-temps était un peu bon.
Et ils ont aussi décidé qu'on avait le droit d'essayer de faire tomber un joueur depuis le banc sans être éjecté. Et que c'était punition égale pour. Enfin bref, on va pas parler de l'arbitrage, on a gagné la série, mais c'est vrai que c'était assez ridicule la journée entière discussion d'arbitrage avant le match. C'était. Ouais, ridicule.
Messieurs, voilà. Je vous propose de vous arrêter là. Moi j'ai une pensée pour Titouan qui fait le montage à chaque fois, et c'est un travail qui est quand même assez fastidieux et laborieux, donc merci à Louis. Bonjour évidemment, un petit coucou à tous les autres copains qui sont pas là et que vous retrouverez dès le prochain épisode sans doute, et puis let's go Celtics, c'est comme l'année dernière qu'on aille encore au final.
Attends, la prédiction. Je veux savoir.
Ah, on n'a pas fait les pronos, mais oui, je me dis bien, j'avais oublié un truc.
Je vais vous entendre être pessimiste un peu.
C'est ça. Allez, du coup, Hugo, les pronos.
Bah écoutez, moi j'ai l'habitude d'être très pessimiste. Je vais annoncer 4-2 Sixers. D'ailleurs, mea culpa, Tito m'avait demandé, je vais faire mon mea culpa. Même si, encore une fois, on est passé peut-être à. Bon, je suis passé à 5 minutes d'avoir raison. Et je suis très très heureux d'avoir fait cette erreur. Mais bon, pour une fois, je vais être optimiste parce que bon, j'ai bien aimé le hit face à Milwaukee. Ils m'ont fait un peu vibrer, je vais pas mentir. Jimmy Butler, merci, tu m'as fait kiffer sur le match 1, le match 2, je sais plus, celui où tu mets 50, t'es génial. Mais là, je vais parier, je vais dire 4-2 Boston. Honnêtement, je serais pas étonné si ça fait 4-1 si on joue sérieusement. Mais je vois pas Jimmy Butler ne prendre qu'un match. Donc, parce que oui, Jimmy Butler va gagner tout seul, évidemment. Donc je vais mettre 4-2 Celtics.
Et yes.
Ouais, moi je pense que je vais dire 4-2 Celtics. Comme Hugo, j'aimerais bien mettre 4-1, mais je pense que Butler va être impactant. Et je pense que, comme j'ai un peu dit en secret tout à l'heure, je pense qu'on va perdre le premier match. Moi, c'est ma prédiction. Je pense qu'on va arriver à la fois avec la fatigue, un jour de repos en moins. La fatigue, un jour de repos en moins, c'est aussi un jour de préparation en moins, hein, sachant que déjà on a un désavantage au coaching. Un jour, 24 heures de préparation en moins, c'est gigantesque. Hein. C'est pas impossible qu'on perde le premier match, donc je vais dire 4-2. Je pense que c'est une prédiction correcte. Comme a dit Hugo, je pense que Jimmy Butler va pas se laisser perdre sans se battre. Après, on se souvient qu'il a été outscored par c'était Jordan Nwora il y a 2 ans contre les Bucks en finale de conf. Mais ça peut arriver. Mais je pense que oui, là ça va être. On est la meilleure équipe de. Pour le coup, on est largement la meilleure équipe, beaucoup plus qu'on l'était contre les Sixers. Donc Celtics en 6.
Et puis pour ma part, je partirai sur un Celtics en 7, parce que en face, je suis pas loin de te rejoindre, Ilias, sur en fait, ce qui me fait peur, c'est pas forcément les joueurs, c'est qui les mène, et je sais que lui, il va vraiment tout faire pour contrecarrer les plans. Donc Spoelstra m'inquiète beaucoup. On sait qu'il va y avoir des Jimmy Butler games. Adebayo, souvent, il est quand même très très bon contre nous aussi. Kylori, même s'il n'est plus le Kylori d'avant, a quand même cette étiquette un petit peu. Hugo, c'est ce que tu mentionnais en off de Celtics Killer. Donc voilà. Pour tout ça, je pense évidemment qu'on est la meilleure équipe, sur le papier en tout cas, c'est sûr. Mais je pense que ça va être dur parce que, comme on l'a dit pendant tout ce podcast, c'est vraiment une équipe. Ah, voilà, le hit, c'est vraiment sans doute ce qui est le plus le mot équipe finalement, parce que c'est que des gars qui sont voilà, qui n'ont pas un pédigré quasiment, à part Bam et Jimmy, qui n'ont pas un pédigré élite, et pourtant ça exécute quoi. Et c'est des machines à exécuter les choses et correctement. Donc vraiment. Une équipe difficile à manœuvrer. Donc, je pense qu'on va s'en sortir, mais que ce sera encore une fois une guerre des tranchées comme ça l'est depuis quelques années maintenant, quand ces équipes-là se rencontrent en play-off. Bon, cette fois, c'est la bonne. Je pense que je n'ai rien oublié. Il est temps pour nous de vous laisser, de vous souhaiter de bonnes finales de conférence Est. Amusez-vous, kiffez. Tous les matchs sont à 2h30 du matin, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et nous, bah, de toute façon, on se retrouve avec les copains dès que la série est finie, quoi qu'il arrive, en espérant que ce soit aussi pour une preview des finals comme l'année dernière.
Contre les Lakers. Je rigole.
Et voilà, donc on vous souhaite à tous le meilleur et à très vite. Bye bye.
Who's gonna win it? The Celtics! Because there's no other reason why. The Celtics are the balls!